Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Etei Yoma, page 10, Daf Yud. Bonne écoute et bon limoud.
Rabbi Yochanan interprète ici, Afalgar de Yaft Elohim le Yefet, bien que Akosh Boko a donné le mérite aux Perses qui descendent de Yefet de s'embellir ou de construire le deuxième Beth Amikdash, En Ashrina Shora Elabo Leshem. La Shrina ne résidera que dans les tentes de Shem. On peut faire allusion ici au premier Beth Amikdash qui a été construit par Shlomo HaMelech qui lui était un descendant de Shem. Donc c'est pourquoi au temps du deuxième Beth Amikdash il n'y avait pas d'esprit divin. La Gemara demande au Parsa et Menalan de Miyefet Katu, d'où est-ce que nous savons que les Perses descendent de Yefet? Alors, la Gemara répond, dit-il, parce que, on va dans la passouk de Bereshit, Bnei Yefet, les enfants de Yefet étaient Gomer, ou Magog, ou Madai, Ve'avan, Ve'tuval, ou Meshech, Ve'tiras. Alors, la Gemara explique, Gomer, c'est Germania, le Gaon dit qu'il faut lire ici Germania, ça veut dire l'Allemagne, ou Magog, Zou Canadia, c'est le peuple de Canadia, ou Madai, Zou Macedonia, c'est la Macédoine, Yavan Kemashmao, c'est la Grèce. Tuval Zebet Unyaki. Meshech Zumusia. Tiras. Pligeba Rabsimai Verabanan. Il y a une discussion entre Rabsimai et Rabanan. D'Amrela, il y a une deuxième version qui dit entre Rabbi Simon Verabanan. Chadama Enaï qui dit Zubet Toriaki. Chadama Zuparas. Et le deuxième a dit que c'est la Perse. Tane a enseigné Rav Yosef dans une braïta, Tiras ou Paras, donc Tiras c'est Paras, c'est les Perses. Nous voyons donc que Paras, les Perses, était un des fils de Yefet. L'agma continue, Savta Verama Vesavtacha, s'il s'agit des enfants de Kouch, qui était le petit-fils de Noach, Tané a enseigné Rav Yosef dans une braïta, puisque le problème est que Savta et Savtacha sont deux noms qui se ressemblent, on voulait savoir donc de quel peuple il s'agit. Rabbi Yosef nous explique Sakistan Gabaita et Sakistan Baraita. Il s'agit d'une contrée qui s'appelle le Sakistan intérieur et le Sakistan extérieur. Ben Khadam et Khadam est à passer. Entre chacune de ces deux contrées, il y avait une distance de 100 parsa. Ve Kefa Alpha parsa. Et le périmètre extérieur de ces deux contrées était de 1000 parsa. La Gemara continue à interpréter des psukim de Parashat Noach. Vatehi Reshit Mamlachto Babel Ve'erech Ve'akad Ve'kalne. Alors il s'agit ici de Nimrod. Le début de son royaume était dans Babel et puis dans les endroits de Erech, Akkad et Kalne. Alors la Gemara explique Babel Kemashmal, il s'agit ici de la Babylone. Erech Ze Urichut Ve'akad Ze Bashcha Kalne Ze Nofer Ninfe. Ce sont donc des endroits différents. Mina Aretz Ayatza Ashur, c'est la suite toujours de ces psukim de Parashat Noach, de cet endroit, de cette terre est sorti Ashur. Tane a enseigné dans une braïta Rav Yosef, Ashur ze Silak. C'est une personne ou un peuple qui s'appelait Silak. Vaïven, il a construit et Nineveh, Ved Rechobot Ir, Ved Kalach. Nineveh, l'agma explique, Kemashmao, donc c'est la ville de Ninive. Rechobot Ir, Zou, Prat de Mesham. C'est une ville qui s'appelait Prat de Meshan, Kalach Zou Prat de Borsif, et la suite du Pasouké va être Resen Ben Ninve ou Ben Kalach, Hi Hayar Gdola. Donc il a construit la ville de Resen entre Ninve et Kalach, c'est la grande ville. Alors Resen Zeaktisfon, Hi Hayar Gdola, c'est la grande ville. Alors la Gemara demande, Eni Odea, Im Ninve Hayar Gdola, Im Resen Hayar Gdola. Est-ce que le pasouk voulait nous dire que c'était Ninive la grande ville, ou est-ce que c'était Resen la grande ville? Que Shomer, quand on a vu dans un pasouk de Yonah, Veninve Aita Irgdola Elokim, Malach Shlosha Amim, le pasouk dit, Ninive était une grande ville aux yeux d'Hachem, il fallait une marche de 3 jours pour traverser cette ville d'un bout à l'autre. Habé Omer, tu diras donc, on déduira d'ici, Ninive Hiyahir Agdola, c'était Ninive qui était la grande ville, et c'est pas Resen. Puisque vous avez interprété différents noms, on va continuer à interpréter des noms. Là, il s'agit des noms de géants qu'on voit dans qui habitaient à Hebron, qu'on voit dans Parashat Shlach. Les Cham Achiman, Sheshai et Talmai, Yelidé Anak. Il y avait donc ces trois géants qui étaient les fils du géant Tana. Alors là, il y a une baraita qui nous en fait. Achiman, Miyuman, Shebachi. Alors, ce géant était appelé comme ça. En fait, c'est une contraction de deux mots, Ach et Yemin. Dire le frère droite. En fait, on voulait dire par là que c'était le plus puissant des trois frères. Sheshai, il a été appelé comme ça parce que Shemesim et Taaretz Kishritot, parce que en passant, il laissait des trous dans la terre ou des ruines. Talmai, Shemesim et Taaretz Tlamim Tlamim, c'est que il était appelé Talmai parce que quand il passait, il laissait des sillons dans la terre. C'est tout cela, c'était pour démontrer leur puissance. Davar Acher, notre explication. Achiman Bana Anat, il a construit la ville de Anat. Sheshai Bana Alush a construit la ville de Alush. Talmai Bana Talbush a construit la ville de Talbush. Yelide Ha'anak, cela veut dire Shemanikim Hachama Bekomatan, ils étaient tellement hauts qu'on avait l'impression que le soleil leur servait de collier. Nouveau sujet. Amar Adi Rabbi Yusha Ben Levi, Amar Rabbi Atida Romi Shetipol Biat Paras, dans le futur, le royaume des Romains tombera dans la main des Perses. Ce n'est pas parce qu'on voit dans un pasouk de Yirmiyahu qui prophétise la destruction de l'Édom. Nous savons qu'au temps de la Gemara, le peuple de l'Édom était représenté par l'Empire romain. Le pasouk dit « Lachen shimu atzat Hashem asher ya'at » il faudra lire ici « El Edom ». C'est pourquoi, écoutez l'idée qu'Hashem a eue à propos du royaume de l'Édom. « Omarchevotav asher hachav » il faudra lire ici « El Yoshevet Teman ». Et les pensées qu'il a eues à propos des habitants du sud, nous savons que le royaume de l'Édom était situé au sud d'Eret Israël. Imlo Israboum Tsehiré Hatson, si ils ne se feront pas traîner par terre par les jeunes du menu bétail, la Gemara expliquera à quel peuple cette expression fait allusion. Imlo Yashim Alehem Nevehem, si ce peuple-là donc videra pas leur maison de leurs habitants, en les transformant en théâtre de désolation. La Gemara demande, Matkif là, a demandé Rabba Bar Oula, mais Emashmada et Siratson Parasu, d'où est-ce qu'on comprend que les jeunes du menu bétail fait allusion à l'Empire perse? La Gemara répond, dit-il, parce qu'il est écrit dans Daniel. Dans ce passage qui est interprété une partie d'un rêve que Daniel a eu, à propos de deux royaumes qui feront des tsarot au clan d'Israël dans le futur, ces royaumes lui ont été montrés sous forme d'animaux. Alors le pasuk dit, Ha'il asher ha'ita abal akranaim, malche madag uparat. Le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, fait allusion au roi de Madaï et de Perse. On voit donc que le royaume de Perse a été comparé au bélier, c'est pourquoi on comprend que le pasuk de Yirmiyah prophétisant la destruction des Romains par le menu du bétail, on comprend que le pasouk fait allusion au royaume perse. La Gemara demande, Vema Yavan. On n'a qu'à dire que le pasouk de Yirmiyahu fait allusion au royaume grec, dirtive, parce que le pasouk de Daniel dit, là, le pasouk interprète une autre partie de ce rêve de Daniel. Donc on parle ici de deuxième animal qui a été montré à Daniel, Vat Safir Hasayir Melech Yavan. Le bouc qu'on t'a montré fait allusion au roi des Grecs. Alors, puisqu'on voit que le royaume grec a été comparé au bouc, qui est aussi fait partie aussi du menu bétail, on aurait pu comprendre que le pasouk de Yirmiyahu fait allusion au royaume grec. Alors, l'Agma répond comme ça. Kisalik, quand est monté Rav Chaviva Bar Sourmaki, Amra Kamedaum Rabbana. Il a posé cette question devant un des Talmud Chachamim de l'époque. Alors ce Talmud Chacham lui a répondu. Amarle, il lui a dit, Man de Leada Perouche Krae Motiv Tuvta le Rebi, celui qui ne sait même pas comprendre un pasouk correctement, est-ce qu'il peut poser une question à Rebi? Sur Rebi, qui a interprété le pasouk d'Yirmiyahu, c'est ainsi qu'il faudra comprendre le pasouk d'Yirmiyahu. Mai Tseiratson, que veut dire le terme de Tseiratson? Les jeunes des menus bétail, Zutra de Achoui. On parle ici du plus jeune des frères, de Tane Rav Yosef, parce que Rav Yosef a enseigné dans une braïta, Tiras Zeparas, donc Tiras veut dire Paras, le père, c'était lui en effet le plus jeune des fils de Yefet. La Gemara continue. Amarabi Rabbi Hana, Amarabi Hana, Mishum Rabbi Yuda Berabi Ilai. Atida Romi chez Tipol Biad Paras, dans le futur, l'empire romain tombera dans la main des Perses. Kalvachomer, et je ne sais ça d'un Kalvachomer. Oma Migdash Rishon chez Banu Beneshem, si déjà le premier Beta Migdash qui a été construit par les descendants de Shem, par Shlomo Amelech, Vehech Rivu Kazdim, et ce Beta Migdash a été détruit par les Kazdim qui descendaient de Shem. Naflu Kazdim Biad Parsim, quand même, ce peuple est tombé dans la main des Perses. Migdash Sheni, le deuxième Beth Amigdash, Shebanouhu Parsim, qui a été construit par les Perses. Nous savons que c'est Koresh qui a fait construire le deuxième Beth Amigdash. Vechrivu Romim, et c'est les Romains qui l'ont détruit. Eux, par contre, descendent de Shem. Enodim, Shiplu Romim Beth Parsim, à plus forte raison que les Romains devraient tomber dans la main des Perses, puisque c'est les Perses qui ont construit le Beth Amigdash. Amar a dit Rav, lui n'est pas d'accord avec ce que Rav Avavachana a dit au nom de Rabbi Yochanan. Atida Parash et Tipol Biadromi. Dans le futur, c'est les Perses qui tomberont dans la main des Romains. Amroul et lui ont dit Rav Kana Veravasi le Rav, Arav, Belouye Biad Seturé. Est-il possible de comprendre que ceux qui ont construit le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, tomberont dans les mains de ceux qui ont détruit le deuxième Beth Amikdash? Alors, Amar Lehu, Rav leur a dit, leur a répondu In. Oui, effectivement, c'est comme ça. Gzerat Melechi, c'est un décret du roi, Sakosh Bohu, qui a décrété comme ça. Ika de Amre, il y a une deuxième version qui dit, il leur a répondu différemment. Amar Lehu, il leur a dit, Ilhun Amiha Kasatre Bekenishta, eux aussi les Perses détruisent des choules, donc finalement ils ne sont pas mieux que les Romains. Tanir Amiachi, on a vu ainsi, comme ce que Rav a dit dans une breita. Atida Parashati Bolbian Romi, dans le futur, les Perses tomberont dans la main des Romains. Chada, premièrement des Satre Bekenishta, parce que eux-mêmes détruisent des choules, Veod, Gzerat Melechu, c'est un décret du roi, d'Akadosh Baruch Hu, chez Plou Bonim Biasotrim, que les constructeurs du Beth Amikdash tombent dans la main de ceux qui ont détruit le Beth Amikdash. Dama Rav Yuda Amarav, parce que Rav Yuda a dit au nom de Rav, En Ben David Ba, le Mashiach qui descend de David Amelech, ne viendra pas, Ad Shetifshot Malchut Romi Harsha, Bukola Olam Kulo, Tisha Chodashim. Jusqu'à ce que s'étende le méchant empire romain, ou celui qui le remplacera à l'époque, dans tout le monde pendant une durée de 9 mois. Chez Nehemar, parce qu'il y a un pasouk qui dit dans Micha, c'est une prophétie à propos de la délivrance finale, « Lachem itne madet yoleda yalada », c'est pourquoi il transmettra les Bnei Israël dans la main de leur ennemi jusqu'au moment où une femme donne naissance à son enfant, donc au bout de 9 mois, Veyeter Echav Yeshuvun al Bnei Israël, et alors le reste de ses frères, c'est-à-dire ceux qui restent, on parle ici du Mashiach, donc les Bnei Israël, retourneront en Eretz Israël avec les Bnei Israël, on parle ici des 10 tribus qui ont été perdues à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash. Nouveau sujet. Talou Rabbanan, les Nochachamim ont enseigné dans une Braïta. Kolal Shakot Shayu Bamikdash, Loa Hayu Laim Mezuzah. Toutes les pièces qu'il y avait dans le Beth Amikdash n'avaient pas de mezuzah, chutz milishkat haradrim, à part la pièce de fonctionnaire, shaya babet dira le Kohen Gadol, parce qu'elle servait d'habitation pour le Kohen Gadol quand il se préparait au service de Yom Kippur. Amar adi Rabbi Yehuda, avalo kama leshakot hayu bamikdash, shaya lahem bet dira velo haya lahem mezuzah. Voici qu'il y avait beaucoup de pièces dans le Beth Amikdash où il y avait, elles étaient destinées à être habitées, il y avait des habitations et n'avaient pas de mezuzah. Rabbi Yehuda fait allusion aussi aux pièces qui servaient aux gardiens du Beth Amikdash, où les gardiens se reposaient en attendant leur tour de garde. Et là, l'ishkat paredrim gzeraïta, c'est pourquoi Rabbi Yehuda pense que la pièce de fonctionnaire qui servait d'habitation pour le Kohen Gadol quand se préparait au service de Yom Kippour, avait une mezouza, parce que les Chachamim ont décrété ainsi, l'Agma expliquera plus loin. Le Meiri souligne ici que les Chachamim n'ont pas tenu compte de l'argument de Rabbi Yehuda, parce qu'en fait, la pièce où les gardiens se reposaient, en fait, servait que quelques heures par jour, donc ce n'était pas considéré une habitation, et on n'avait pas besoin d'y apposer une mezouza. La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi il dit que la pièce où le le Kohen Gadol séjournait pendant 7 jours, n'avait pas besoin de mezouza mais la Torah. L'Agma répond, Amar a dit, il faudra lire ici, Rabba, Kassava Rabbi Yuda pense, Kolbaït, She'eno Asui, Limota Chama Velimota Kshamim, toute maison qui n'est pas destinée à être habitée autant en été qu'en hiver, Eno Bait n'est pas considéré comme une maison, et donc il ne faudra pas y apposer une mezouza. Et il va abayer, Abaye a posé une question, Ve'aktiv, voici qu'on voit dans un pasouk de Amos, c'était une prophétie qui annonçait une punition sur le clan d'Israël. Le pasouk dit, Ve'iketi el bet achoref al bet akait. Je frapperai, je détruirai la maison d'hiver et la maison d'été. À l'époque, ils construisaient une maison d'hiver qui était bien isolée contre le froid et une maison d'été qui, au contraire, qui était ouverte, qui était bien aérée. Donc on voit que la Torah emploie le terme de bait, maison, pour une maison qui sert qu'une partie de l'année, bon, l'été ou l'hiver. Alors, l'Agma répond, à Marley, Rabba lui a répondu, à Abaye, bait, bet choref ou bet kait ikre, bait tamalo ikre. Il est vrai que la Torah l'appelle la maison d'hiver ou la maison d'été, mais on ne l'appelle pas la maison tout court. Donc en fait, on peut toujours comprendre l'avis de Rabbi Yehuda, selon l'explication de Rabba, qu'une maison qui n'est pas destinée à être habitée pendant toute l'année n'est pas considérée une maison et on ne devra pas y apposer de mezouza. C'est pourquoi la pièce qui servait d'habitation pour le Kohen Gadol pendant les 7 jours où il se préparait pour le service de Yom Kippour n'aura pas besoin de mezouza. Et il est Abaye a posé une deuxième question sur Rabba. Il rapporte ici une Mishnah de Maasrot. Nous savons que Minatora, l'obligation de prélever le maaser sur les fruits et légumes, ne prend effet qu'une fois la récolte est apparue devant la maison, c'est-à-dire une fois qu'on a emmené la récolte à la maison. Bon, le problème se pose ici. Sukat hachag bechag, si il a amené des fruits et légumes des champs, il les a fait rentrer dans la soukha pendant la fête de Sukkot. Rabbi Yehuda Mechayev, Rabbi Yehuda dit que l'obligation de prélever le maaser a pris effet. On ne pourra donc plus consommer de ces fruits et de ces légumes avant de prélever le maaser. Les Chachamim potrim, et les Chachamim disent que l'obligation n'a pas encore pris effet, et donc on pourra consommer de ces fruits et légumes même qu'on n'a pas encore prélevé le maaser. Betaneala, et il y a une breita qui dit là-dessus, Rabbi Yehuda Mechayev be'eruv ou be'mezuza ou be'maaser. Donc Rabbi Yehuda considère la soukha pendant la fête de Sukkot comme une maison à propos de trois choses. À propos du Hérouv, nous savons que s'il y a plusieurs personnes qui habitent dans une même cour, donc plusieurs maisons qui donnent dans une même cour, on n'a pas le droit de porter de la maison à la cour et vice-versa. Si tous les habitants de cette cour ne se sont pas associés en donnant chacun un morceau de pain, et pour considérer comme tous les habitants de cette cour comme faisant partie d'une famille. Tout cela est décrit dans la Maseret Eruvin. Alors, s'il y a une des personnes qui ne participe pas au Eruv, alors tous les habitants de cette cour ne pourront pas porter de leur maison à la cour et vice-versa. Par contre, si un invité qui habite chez quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un qui habite dans une maison qui n'a pas la taille requise pour être considéré comme une maison, lui n'interdit pas, ne cause pas cette interdiction de porter de la maison à la cour, et donc ne devra pas participer au Hérou. Alors, ce que Rabbi Yehuda dit, que la soukha pendant Sukkot est considérée comme une maison par rapport au Hérou, et donc devra participer au Hérou comme tous les habitants de la cour, et s'ils ne participent pas, donc tous les habitants de cette cour ne pourront pas porter de leur maison à la cour. À part cela, Rabbi Yehuda aussi rend obligatoire le fait d'apposer le mezouza dans la soukha, et aussi par rapport au maaser, comme nous avons expliqué plus haut. On voit donc que Rabbi Yehuda rend obligatoire la mezouza, même dans une habitation temporaire, comme la soukha. Et si tu veux me dire que ce que Rabbi Yehuda considère la résidence temporaire comme une maison, ce n'était que Midera Banan, Bishlama Eruv Mezouza, on comprend bien que à propos du Eruv et de l'obligation de mezouza, on peut dire que c'est les Chachamim qui ont imposé la mezouza et qui ont imposé aussi la participation au Eruv. Et la maaser mikalememam de rabanan, est-il possible que le fait qu'on dise que le passage des fruits dans la souka fait prendre effet l'obligation de maaser ne soit comme des rabanan?
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Passons à Dafyud Amudbet. Parce que si le passage des fruits et légumes dans la souka, qui est une habitation provisoire, qui n'est utilisée que quelques jours, ne faisait prendre effet l'obligation de prélever le maaser comme des rabbanan selon Rabbi Yehuda, alors que min haTorah, cette obligation de prélever le maaser n'a pas encore pris effet, Dilma a-t-elle affouché min haChiyuv à la Ptur, ou min haPtur à la Chiyuv? Il peut arriver des situations où il vaudra associer à ces fruits et légumes qui sont passés dans la souka des fruits et légumes qui sont passés dans une maison, où là l'obligation de prélever le maaser a pris effet min haTorah, et il se trouverait donc qu'il prélèverait pour le maaser des fruits qui ont sur eux l'obligation de prélever le maaser min haTorah, sur des fruits qui, eux, n'ont pas l'obligation de prélever le maaser, ou bien le contraire, ils risquent de prélever pour le maaser des fruits qui n'ont pas sur eux l'obligation de prélever le maaser, sur des fruits qui, eux, ont l'obligation de prélever le maaser. Et donc, ce ne serait pas bon. Donc, c'est pourquoi on est obligé de dire que si Rabbi Yehuda considère une maison provisoire comme une maison, on est obligé de dire que c'est min haTorah qui le considère comme une maison, et donc revient la question, pourquoi selon lui la pièce où séjournait le Kohen Gadol pendant les 7 jours où il se préparait pour le service de Yom Kippour n'avait pas besoin de mezouza min haTorah? Alors l'Agmara propose une autre explication, et là Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye a dit Beshiv'a de Kulam alopligé de Mechaïva, pendant les 7 jours pendant lesquels le Kohen Gadol se prépare au service de Yom Kippour, tout le monde est d'accord, soit Rabbi Yehuda, soit le Tanakama, que l'obligation d'y apposer une mezouza est min haTorah. Qui plié? Dans quel cas il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama? Bishalei Mot HaShana, les autres jours de l'année où cette pièce est inutilisée. Rabbanan Savrei Gazrinan Shalei Mot HaShana Tushiva. Les Chachamim pensent qu'il faut laisser la mezouza tous les jours de l'année sur la porte de la pièce qui servait d'habitation au Kohen Gadol pour les 7 jours où il se préparait au service de Yom Kippour, de peur qu'on oublie justement d'y apposer la mezouza pendant les 7 jours où cette pièce était utilisée. Rabbi Yehuda Savar pense logazrinan, qu'on ne craint pas qu'on oublie d'apposer la mezouza pendant les 7 jours où la pièce est occupée. C'est pourquoi la raison pour laquelle cette pièce exclusivement avait une mezouza pendant toute l'année, c'était pour une autre raison qui sera expliquée plus loin. Rav a posé une question à Abaye, vers Sukkat Achag Bechag Katane. Voici que dans la deuxième braïta, on a vu qu'une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, même pendant les 7 jours où la Sukka est utilisée pendant Sukkot. Cet avis reste donc à expliquer. Et là, c'est pourquoi Amar a dit Rava, pendant tous les jours de l'année où la pièce où le Kohen Gadol séjournait pour la préparation du service de Yom Kippour, tout le monde est d'accord que on n'a pas besoin de laisser la mezouza puisque la pièce est inutilisée. Kipligé Beshiva, où se situe la discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama, cette discussion se situe pendant les 7 jours où le Kohen Gadol l'utilisait. Vesuka Tama Lechud, Velishka Tama Lechud. Et en fait, bien que nous avons deux braïtas à ce sujet, la souka, à propos de la souka, il y a une raison à part, et à propos de la pièce qui servait d'habitation au Kohen Gadol pendant qu'il se préparait au service de Yom Kippour, a aussi une raison à part. Alors, la raison de souka Tama Lechud, la raison de la discussion à propos de la souka a une raison à part. Rabbi Yehuda l'étamé. Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut apposer une mezouza à la porte de la souka, concorde avec son avis à propos de la souka, de Amar souka dira keva bainan. À propos de la souka, il faut que la souka soit construite de manière à être qu'une habitation fixe. C'est pourquoi, par exemple, une soukha qui est plus haute que 20 mètres, donc c'est obligé d'être une soukha solide pour pouvoir tenir 7 jours, pour qu'elle puisse tenir 7 jours, est kasher selon Rabbi Yehuda. C'est pourquoi, Mechayva Mezouza, il faudra y apposer une mezouza, parce que c'est considéré comme étant une bonne habitation. Verabanan, le tamayou. Par contre, les rabbanan qui disent qu'on n'a pas besoin d'apposer une mezouza à la porte de la soukha, cela concorde avec leur avis, d'Amre soukha dirat aray bainan. Eux disent que la soukha doit être une habitation provisoire. C'est pourquoi, par exemple, une soukha qui a plus de 20 coudées de haut est pas soule, parce que à ce moment-là, il faut une construction solide. Velishka tamalchut, la pièce qui servait et qui était destinée au Kohen Gadol, avait une raison pour elle, c'est-à-dire la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbanan, qui pense que cette pièce avait besoin d'une mezouza minatora, savrait dira bal kocha shma dira. Il pense qu'une habitation forcée est considérée comme étant une habitation, c'est-à-dire qui. Et donc, bien que le Kohen Gadol habite dans cette pièce pendant 7 jours, pas de son plein gré, il est forcé de quitter sa maison. Cette pièce aura quand même besoin d'une mezouza minatora. Par contre, Rabbi Yehuda, Sabah pense, dira bal kocha la shma dira. Une habitation forcée n'est pas considérée comme étant une habitation, et donc minatora, on n'a pas besoin d'y apposer une mezouza. Ou mettez rabbanan ou de taknula, et c'est les chachamim qui ont institué d'y apposer une mezouza, chez le yomru, pour que les gens ne viennent pas à dire, Kohen Gadol chabush le bet asurim, que pendant ces 7 jours, le Kohen Gadol est en prison. Nous avons fini le shiur de Yumadaf Yud. Nous commençons le shiur de Yumadaf Yud Aleph, nous commençons Daf Yud Amud Bet, le dernier mot en bas de la page. Nous avons vu une discussion entre Rabbi Yehuda Rabbanan concernant l'obligation d'apposer une mezouza à la porte de la pièce destinée au Kohen Gadol. Selon Rabbanan, cette obligation était minatora. Selon Rabbi Yehuda, cette obligation était midrabbanan. Alors, l'Agmara demande comme ça, Maltanan leha de talu Rabbanan, qui est l'auteur de la Braïta qu'ont enseigné nos chachamim.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.